10 piles avec Simon Tremblay, Marc Diquet et Fred Gagné.
11h32, comme on le disait en ouverture d'émission, Fred, tu allais faire un shift avec des ambulanciers de Saguenay, hein, de la CETAC?
Exactement, c'est la coopérative des techniciens ambulanciers du Québec.
Ah, c'est une coopérative, puis ça fonctionne?
C'est une coopérative, mais il y a de l'argent à faire.
Oui. Évidemment, il y a des contrats relativement garantis. Ouais.
Ouais, c'est ça, là. Mais pour revenir justement à notre département d'aujourd'hui, c'est une coopérative et, tu sais, quand on n'est pas là-dedans, on a l'impression que les ambulances sont toutes un peu cachées dans les sous-sols d'hôpitaux, puis qu'ils sortent rien que ces câbles, puis que les ambulanciers, les paramédics, c'est des employés de l'hôpital, du SUS. Pis on a cette perception-là, puis c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est pas ça, pas en tout. Dans la région, il y a plusieurs compagnies ou des coopératives, il y a même des privés, il y a même des individuels qui se regroupent, puis qu'au bout de la ligne, vont faire un schéma de couverture totale pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exemple, la coopérative dont je te parle va pas au Lac-Saint-Jean. C'est une gang. T'as Medilac, entre autres, qui existe, entre autres.
Il y avait ambulance Chicoutimi un bout.
Je pense aussi également. Et c'est drôle parce que, outre ça, alors qu'on pense que c'est les hôpitaux puis les ambulanciers qui sont vraiment, vraiment interreliés, faut dire que la genèse des ambulanciers et des paramédics provient pas mal plus des salons funéraires. Et dans la région, c'est carrément ça. Les salons funéraires, pendant des années, et dans certains cas encore peut-être, avaient leurs propres ambulanciers, leurs propres ambulances. Et l'héritage de ça a découlé par la suite. Et tous ceux qui ont un peu de mémoire ou un peu d'années au compteur vont vous dire « Ah oui, tel gars, tel croque-mort, tel avait l'ambulance. » Puis à un moment donné, il y a des noms qui sont restés. Mais au bout de la ligne, la CETAC est quand même une coopérative assez grosse. Et Diké parlait dans le secteur d'Arvida ou Arnold Chevrolet. Arnold, il y a effectivement leur quartier qui est là, le QG. J'ai eu la chance de passer une bonne partie de ma soirée là hier, une partie de mon chiffre là d'ambulancier de paramédic. Il y a de l'ambulance là au pouce carré, puis il m'a dit une affaire que c'est propre. Là. Tu pourrais manger à terre parce que t'as pas le choix, faut que ça soit propre. Les ambulances, faut que ça soit clean, c'est lavé in and out, en dedans, dehors. Il y a même un gars qui est affecté, puis je pense même qu'il y en a deux en tout et partout, là, qui ne font que préparer les trousses et s'assurer que tout est clean.
Ah ouais.
Fait que quand une ambulance a fini son quart de travail, là, elle rentre dans le garage. Les ambulanciers ont déjà fait le gros du ménage en dedans. Puis t'as un autre gars qui repasse, qui désinfecte tout. En général, là, c'est pas parce que tu fais une ride d'ambulance que tu vas être assujetti à pogner streptocoque. Au contraire, c'est pas mal plus clean que chez vous puis chez moi.
Donc, inévitablement, ils ont plus de véhicules que ce qu'il y a sur les routes.
Oui, parce que ça peut briser. Ouais. Parce que, oublie pas que quand il y a une ambulance qui est sur un call, il faut que tu rétablisse ton schéma de couverture. Et il y a plein de petites choses là-dedans. D'ailleurs, tantôt, vous m'avez questionné à savoir, ouais, mais il y a des ambulances qui sont tout le temps parquées à telle place, puis c'est-tu voulu? Oui. Exemple du côté de la coopérative qui va traiter vraiment l'arrondissement de Saguenay, et non pas la baie, non pas le lac. Je vais te dire qu'en temps réel, ils ont à peu près, et je dis, je sens à peu près trompé, 5 ambulances de positionnées. T'en as 2 à Chicoutimi, t'en as une à Chicoutimi-Nord, t'en as une à Arvida, puis t'en as une à Jonquière. Et quand ça va bien, le positionnement est là. Est-ce que c'est parce que les gars aiment le Tim Horton puis sont positionnés à côté du Tim Horton? Non, tu comprends qu'il y a une logique en arrière de ça. Et je vous laisse d'ailleurs entendre un des superviseurs qui est là, ambulancier ou dans ce domaine-là depuis une trentaine d'années, Jerry, qui nous explique, si tu es aléatoire ou si voulu le positionnement des ambulances.
C'est réfléchi, c'est pensé. La logique en arrière de tout ça, en fait, c'est de façon stratégique, selon le moment de la journée, selon si c'est l'heure de pointe, ça a été pensé pour être capable d'avoir un temps réponse le plus rapide possible dans des zones urbaines ou dans des zones résidentielles, par exemple, à certaines heures du jour, à certaines heures de la nuit. Ce qui fait en sorte que, aussi, entre autres, je prends comme exemple Chicoutimi, où c'est une topographie qui est un peu particulière, c'est-à-dire c'est en côte. C'est pensé pour être bien positionné, pour avoir accès à un axe routier rapidement accessible, mais aussi pour que ce soit descendre ou monter le haut de la ville.
Puis il y a une époque où il y avait une ambulance qui était positionnée il y a quelques années régulièrement sur la rue Racine, puis ils l'ont démobilisé de là parce qu'ils s'apercevaient que quand c'était le temps de partir sur des calls d'urgence, c'était pas si pratique que ça.
C'était pas la meilleure place.
Et on a joué un peu un jeu à savoir s'il n'y avait qu'une seule ambulance pour desservir, puis on va le jouer avec vous autres, là. S'il n'y avait qu'une seule, tu sais, on dit 5, mais s'il y en avait rien qu'une, t'as mis où?
Pour Saguenay.
Ouais, Ville-Saguenay.
Dans le cours chez Lulu.
En fait, là, il n'y a pas d'absolue vérité, mais pensez pour le fun. Vos réponses peuvent être aussi bonnes que ce que je vais vous donner.
Costco.
Si, mettons, là, t'es vraiment mal pris, là, puis t'en as à placer rien qu'une, là, t'as positionné au Costco, c'est elle qui va pouvoir répondre à la plupart de tes besoins. Et je vais vous dire une chose, je l'ai vécu d'une certaine manière. Première des choses, ça reste un métier où le respect est important, la confidentialité aussi. Je peux pas vous dire sur quoi j'ai intervenu hier, mais j'étais un observateur qui respectait certains engagements écrits. C'est correct, je joue avec ça, puis c'est correct. Mais hier, il y a eu entre autres un accident de la route, sans trop de conséquences, je me permets de m'avancer jusqu'à là. On était positionné au QG, dans le coin d'Arnold, à Arvida, et il a fallu se déplacer assez rapidement parce que sur le moment, on connaissait pas trop la gravité des cas. Quoique eux autres, ils ont des codes, mais ça pressait. J'ai eu la chance d'embarquer dans un véhicule de superviseur, donc un paramédic. Tu sais, quand ils mettent les flashs puis que ça roule, là, c'est quelque chose, les gars, c'est une expérience. C'est une expérience parce qu'eux autres, ils se promènent, tu sais, eux autres, quand tu te promènes dans un deux voies, ils sont capables d'en créer trois s'il faut. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, oui. Puis des fois, c'est par la gauche, parfois, c'est par la droite, parfois, c'est au milieu.
Est-ce que c'est vrai qu'ils ont, tu sais, on a l'impression qu'ils vont vite, mais qu'ils n'ont pas le droit de dépasser les limites de vitesse non plus?
Ta question est absolument pertinente et voici donc les réponses de Jerry.
Oui, écoute, c'est un volet, c'est un module qui est très, très important maintenant, là. Fait que c'est beaucoup, beaucoup encadré. Les limites de vitesse aussi, c'est pas illimité. Le code de conduite est clair là-dessus. Puis, il faut avoir des bonnes pratiques dans des bonnes circonstances. C'est malheureusement encore pas évident, je te dirais. Je suis pas en mesure de te dire là, que si ça s'enseigne dans les écoles de conduite, mais je te dirais, puis t'as pu le voir tantôt, là. En fait, chaque situation, chaque kilomètre, chaque moment qu'on vit sur la route, on arrive en arrière d'un véhicule, puis on n'est pas en mesure d'anticiper quelle va être sa réaction. Fait que c'est une surprise à toutes les fois. Donc, il faut être d'autant plus prudent, être prévoyant, se faire voir, se faire entendre, c'est très, très important. Puis il y a même des situations comme on a vécu tantôt, on est arrivé à une artère où c'était tellement dangereux ou ça c'était hasardeux, ben j'ai même arrêté les gyrophares pour éviter justement là de causer un possible accident en avant de nous autres.
Là. Je peux même te dire où c'est, là. Je pense pas que c'est un grand secret là. Tu sais quand tu t'arrives de l'autoroute en provenance de Jonquière puis tu sors à côté du Costco là.
Ouais.
La bretelle qui est là, c'est là qu'on a fait notre code dans ce coin-là. À plusieurs endroits, tu mets tes gyrophares, les gens se tassent. Mais à cet endroit-là, t'es mieux de les éteindre pour pas faire capoter le monde, parce que si le monde commence à se tasser à gauche, à droite, puis il s'embarque sur ta botte, là, tu peux créer d'autres accidents. Fait que lui, non seulement il faut qu'il roule vite, il faut qu'il roule entre les chars, il faut qu'il sache jauger à quel moment il fait virer ses sirènes, ses clignotants, puis à quel moment qu'il dit « Garde, je m'en vais chez lui d'un accident, je m'en vais pas à causer d'autres, à un moment donné, il faut que je claque un tour aussi. »
Mais les gens savent pas comment réagir.
Ben, c'est normal, je l'ai vu hier.
Écoute,
hier...
Tu vas à gauche, tu tosses à droite, lui en avant, s'il prend l'autre bord, c'est pas plus avantageux.
Écoute, je l'ai vu, tout le monde se tossait en général. À un moment donné, on a créé une troisième voie en deux voies, puis ça roulait mon ami. Sauf qu'à un moment donné, on a fait « Ih, c'est dangereux », puis là, il a fermé ses gyrophares, il a fermé ses lumières, puis il a même fait signe à un gars en disant « Non, pas besoin de te tosser, là, gars, je vais me rendre, là ». Puis c'est vraiment la gestion de tout ça. Alors, avant, dans le temps, il y a 30 ans, ce cours-là se donnait pas le volet académique de comment conduire un véhicule de paramédic. Aujourd'hui, ça s'enseigne. Puis c'est niaiseux, mais c'est intéressant. Et de grâce, si possible, sans mettre votre vie en danger, donnez-le une chance quand ils s'en viennent en arrière de vous autres. Mais vous n'êtes pas obligé de vous tuer pour eux autres. C'est un peu le message qu'essaye de passer. Je veux qu'on parle également de... Tu sais, les paramédics, là, il y a des soirs qui se passent absolument à rien. Puis il y a des soirs, c'est complètement sauté sur le crinque. Tu peux pas prévoir à l'avance ce qui s'en vient, mais ils sont capables de compiler chaque quart de travail sur des années pour savoir s'il y a des récurrences. Est-ce que le premier du mois, c'est toujours un soir qui est énervé? Oui. Est-ce que les festivals est un soir où tu es obligé de mettre des effectifs de plus? Bien souvent. Est-ce que des congés fériés comme, exemple, la Saint-Jean-Baptiste, Confédération, le temps des fêtes sont des endroits où tu sais que tu vas avoir besoin de ton staff? Oui, exactement. Ça, c'est définitif. J'ai assisté à les relèves de garde. Autrement dit, tu as des paramédics qui rentrent, il y en a qui finissent la journée, puis souvent, ils sont briefés. Ils ont des petites réunions bien courtes, là, mais qui disent « Hey, by the way, au niveau de la formation, on a vu ça la semaine passée, te souviens-tu de tel paramètre? » J'ai le droit d'assister à ça, puis à un moment donné, je vois qu'ils sont en train de reviser une mini formation sur le naloxone. Tu sais ce qu'on parle pour être un agent d'antidote pour les overdoses de fentanyl.
Ouais.
Là, j'ai dit, baptême, il me semble que dans notre région, il n'y a pas vraiment, pas tant que ça. C'est plus Montréal, Toronto. Ben, fait que j'ai demandé un petit peu à Jerry, j'ai dit, là, vous autres, vous parlez de ça, comment l'administrer, puis il parlait des doses. C'est un jargon que moi puis toi, on ne comprend pas, là. Mais dit, à quel moment on le donne, comment qu'on en donne, puis ça. Puis ce que j'ai posé comme question, l'histoire du naloxone puis le fentanyl, délivrez-vous avec ça régulièrement?
En fait, je te dirais environ depuis 4-5 ans, là, on a dispensé cette formation-là à tous nos paramédics de la région. On administre ce médicament-là quand même assez régulièrement pour toutes circonstances, que ce soit pour personnes qui seraient intoxiquées, par exemple, comme tu le disais, soit au fentanyl ou autre type d'opioïde, mais aussi pour des gens qui ont besoin de prendre une certaine quantité de médicaments pour, entre autres, diminuer les douleurs chroniques, par exemple la morphine. Ça fait à un moment donné que l'effet étant moindre à long terme, fait en sorte que les gens doivent en prendre des quantités un peu plus grandes. À ce moment-là, il y a des risques que, justement, cette personne-là diminue sa respiration ou arrête carrément de respirer en situation où il y a un surdosage. C'est à ce moment-là qu'on administre le naloxone.
Fait qu'évidemment, tu peux avoir... comment je pourrais dire? Je te disais qu'il y a eu un cas d'accident automobile. Sans trop de répercussions hier, oui, j'ai vu ça. Est-ce que la drogue est un sujet où les paramédics se déplacent? Effectivement. Tout âge, ça peut arriver. Donc, tu deals avec des gens qui sont possiblement en overdose, qui sont en surconsommation, qui sont désorganisés. Puis, tu sais, à quel moment une job est une job de paramédic? À quel moment une job est une job de police? Les gens désorganisés. C'est un monde qui nécessite beaucoup de diplomatie puis de sang-froid. C'est spécial. Maintenant, être paramédic, moi, je mets ça un peu dans le même tiroir que les policiers. Évidemment, c'est connexe. Également aussi peut-être les militaires. Et je parle de militaires qui sont déployés, qui sont en situation de combat, parce que c'est pas des jobs de bureau de 9 à 5 où tu rentres, tu punches, tu remplis de la paperasse, tu tapes sur ton clavier, puis c'est fini. Alors remarque qu'il y a de plus en plus d'informatique là-dedans, là, mais tu deals avec des humains, tu deals avec des crises, avec des situations, il n'y a pas une journée pareille. C'est ce qui rend le métier intéressant, les gars. Une journée, il ne se passe rien, le lendemain, tu es débordé, il faut que tu fasses rentrer des effectifs de plus, tu jongles avec la mathématique de qui est disponible, qui est capable de faire ça. Mais à un moment donné, est-ce que ça s'accumule? Est-ce que ça a eu son homme ou sa femme? Parce que on a déjà parlé avec des militaires qui, à un moment donné, ont été obligés de débarquer des forces parce qu'ils en avaient trop vu. On a déjà vu des situations de policiers, pas juste dans le district 21, 31, tout ça, mais des policiers, à un moment donné, qui s'enlevaient la vie parce qu'ils en avaient trop vu. Imaginez-vous les ambulanciers, ce qu'ils voient d'une journée. Tu sais, blague à part, les ambulanciers charrient pas des gagnants du Lotomax. Les ambulanciers charrient des gens qui ont des blessures, qui sont en surdose, qui sont morts. Fait qu'à un moment donné, est-ce que la question du, appelons ça comme c'est, le stress post-traumatique, ça existe dans leur domaine?
Ah oui, définitivement. On a des situations qui ont fait en sorte que ça a eu des impacts malheureux là, sur la vie de nos paramédics. C'est souvent la somme des charges émotives qui s'accumulent au fil du temps, font en sorte qu'à un moment donné, il y en a une qui s'ajoute, puis ça fait en sorte que celle-là, ben, ça crée un événement qui devient problématique. On veut être capable de protéger notre main-d'œuvre, puis faut être en mesure de mettre en place des façons de déceler ou d'amoindrir un peu les charges émotives pour permettre à nos gens, là, justement, là, d'être capables d'avoir des carrières qui puissent perdurer dans le temps.
Fait que, tu sais, c'est ça. T'sais, tu fais ton quart de 8 heures, ça reste que c'est des gens qui sont bien encadrés, qui sont professionnels, mais on est-tu préparé? Est-ce que tu t'habitues à avoir des gens morts? Est-ce que tu t'habitues à avoir des accidentés de la route? Probablement qu'à un moment donné, ça s'accumule. Puis avant, du soutien psychologique, comme dans le monde des pompiers, comme dans le monde des policiers, comme dans le monde de l'armée, c'était pas très en branle. À un moment donné, avec des bad luck, des dépressions puis des tentatives de suicide, on a instauré des mécanismes. Puis pour eux autres, évidemment, c'est bien important. Puis je pense qu'il faut que ça évolue. Puis c'est bien logique comme ça. Puis à un moment donné, justement, au fur et à mesure que la soirée avance, tu sais, à un moment donné, je ne suis pas pour poser cette question-là au début parce qu'on se connaît à moitié pas, mais à un moment donné, quand ça fait 6, 7, 8 heures qu'on est dans le truck puis on se promène, je suis un humain, là. Ça me brûlait la langue de dire, ben, toi, c'est quoi ton pire cas que tu as vu? Et tu sais, il y en a sorti un, c'est assez classique, mais c'est assez intense, vous allez pouvoir entendre, vous comprendrez que ça marque son homme.
Mais entre autres, il y a une situation que j'ai déjà vécue avec mon partenaire où c'est un enfant, en fait, qui s'était fait écraser par un camion. dans un quartier résidentiel. Cet événement-là, puis toute la situation, je revois encore toute la scène, comment ça a été géré. Je revois encore les visages des personnes qui étaient présentes. Je revois encore, je serais même capable d'aller te montrer à l'endroit précis où c'est arrivé. J'ai encore aussi en tête la réaction, la stupeur des gens qui ont été témoins de la scène. La réaction de la famille, c'est encore frais à ma mémoire, si ça fait au-delà de 15 ans.
Il dit, je me souviens de telle personne, ce que j'ai fait dans l'ordre puis dans le désordre. Puis il dit, mettons, mon collègue à ce moment-là, qui a fait l'intervention avec moi, on s'en est reparlé une couple d'années plus tard, puis on avait deux perceptions différentes, mais c'était quand même... oui, ça fait partie de ta job de ramasser des gens maganés, mais t'es un humain pareil. Et ça, j'ai trouvé ça mauditement intéressant. Mais c'est ça. C'est un service qui est essentiel. C'est un service qui est en partie méconnu. T'sais, à un moment donné, on s'est promené à l'hôpital de Jonquière. Tu sais, l'histoire des ambulances qui sont trop hautes pour la porte. Puis moi, ouais. Dit, ben, comment qu'on fait à cette heure? Ben, on s'adapte comme ça. Mais le premier qui a rompu le toit, c'était quelque chose. Je vais vous laisser avec une anecdote qui est particulièrement savoureuse et que je peux raconter parce que c'est pas dégueulasse. À 4 heures, quand je rejoins Jerry au bureau des paramédics du côté d'Arvida, pas loin de Charnol, on commence ensemble à 4 heures. Lui, il était là depuis 3h30, il faisait de la paperasse. Il dit, bon, ben, il dit, garde, moi, ma journée commence pour asseoir. On va aller manger une petite bouchée au McDo à la Jonquière. Fait que j'embarque dans le troc, puis tu sais, il me dit, ah, il faut que tu signes tel papier, puis il faut que tu mettes un petit dossard, puis il dit, garde, on va aller au McDo, on va aller. Il dit, moi, mon souper. Classique. Écoute, il rentre, il se colle un Big Mac, une frite, une liqueur. Il s'assoit, il ouvre son petit casseau, il met ses frites dans son petit casseau, il met son sachet de ketchup. Le sel se met à flasher comme un stroboscope. Un call à telle place, on décolle. Il dit, ça, mon homme, c'est l'histoire de ma vie.
Terminé.
Et là, il a pogné le Big Mac, les frites, il a refermé ça, sacré ça dans le derrière de la boîte, puis il l'a mangé 1h30 plus tard. Et quand on a raconté cette anecdote-là à ses autres collègues, ils ont tout fait, c'est ça notre vie.
Si c'est pas encore prêt, puis il a pas eu le temps de payer, il faut qu'il...
Ah, il fly. Je sais pas s'il va payer sa commande après, mais c'était tellement drôle. Le gars, mettons, il n'a rien mangé de la journée. Il ouvre son. On sait c'est quoi un Big Mac si vous aimez ça. Quand t'as le goût de le manger, puis il est dans ta face, puis il sent le Big Mac. Il a même pas eu le temps de croquer dedans. Ça sonne, puis là, ça fly. Puis c'est à ce moment-là qu'on a zigzagué un peu partout pour se rendre à un premier incident. C'était ça. Alors, c'est un métier qui devrait davantage être mis en valeur, puis je pense que eux autres le savent, c'est-à-dire que les pompiers font, les gars d'un fois dans les quartiers, des opérations de sensibilisation, ils vont cogner aux portes, puis les petits-enfants peuvent monter dans le camion. Les policiers, une fois de temps en temps, font des opérations visibilité dans les écoles.
Les ambulances le faisaient un petit peu dans les festivals.
Ouais, mais ils ont intérêt à le faire plus, puis de ce que j'ai compris, ils sont bien sensibilisés à ça, puis c'est pas étranger au fait que j'ai pu avoir un accès hier, que c'est pas tout le monde qui a aussi, c'est un peu donnant-donnant, mais ça reste que j'ai, disons qu'à la fin de mon corps de travail, là, t'es pas obligé de voir les affaires les plus écœurantes au monde pour dire, hey, ils sont tough. Juste de voir l'organisation, la propreté, la séquence des choses. Tu travailles, mais t'as un écran avec un GPS qui te montre toutes les ambulances sont où à tel moment, comment te rendre, comment le dealer, comment gérer les codes. On va se le dire, c'est de la peau, mais c'était hyper intéressant.
On revient tout de suite après la pause. 95.7 Kick, Saguenay.